Mercredi, je vous dis pas bonjour et comme chaque mercredi, c'est spécial ciné avec les films projetés au cinéma. Il est en compagnie de Martine. Bonjour Martine.
Bonjour Roland, bonjour tout le monde.
On commence ces projections avec En guerre.
Alors En guerre, c'est un film réalisé par Stéphane Brisé, dont il a aussi écrit le scénario avec Olivier Gors. C'est sorti en mai dernier, c'est avec Vincent Lindon, Mélanie Rover, Jacques Bordery également. Alors il s'agit du quatrième film de Stéphane Brisé avec Vincent Lindon. Rappelez-vous, il avait fait Mademoiselle Chambon, Quelques heures de printemps et La loi du marché. Le film a été présenté au Festival de Cannes et il a été plusieurs fois nominé. Il avait été pressenti pour la Palme d'Or même, le prix du jury, le prix de la mise en scène, etc. Enfin voilà, donc il a été très apprécié. Et c'est l'histoire de salariés, malgré de lourds sacrifices financiers de leur part et un bénéfice record de leur entreprise, vous connaissez la chanson, la direction de l'usine Perrin Industrie décide cependant la fermeture totale du site. L'accord est bafoué, les promesses non respectées, les 1100 salariés, emmenés par leur porte-parole, Laurent Amedeo, vont refuser cette décision brutale et vont tout tenter pour sauver leur emploi, bien sûr. Alors, parmi les avis des premiers spectateurs, je vous en livre quelques-uns. Un très beau et un très grand film social et politique, le plus puissant, le plus troublant. Un drame d'une puissance émotionnelle inouïe. Ça, c'est dans le journal du dimanche. Une démonstration exemplaire de la brutalité du système où la seule logique de rentabilité fait loi, confirmée malheureusement par des décisions de justice. Et on voit dans le film toute la douleur, toute la colère de ces ouvriers qui se ressent face au cynisme et au mépris de classe des dirigeants. Vincent Lindon habite réellement son rôle, il incarne son personnage avec une ferveur et une conviction que l'on sent intense, tout comme le spectateur a l'impression et l'émotion de participer à la lutte. Avec des comédiens, pour la plupart, non professionnels, c'est une fiction, mais elle est tellement documentée sur des événements réels, sur les coulisses des fermetures d'usines, que cela devient documentaire, lié à l'actualité, des reportages finalement saisissants sur les débats entre syndicats et patrons. Il semble qu'on sorte vraiment secoué de ce film puissant et engagé, en tension permanente jusqu'à un épilogue assez anxiogène. C'est du grand art, avec des dialogues percutants, une mise en scène impeccable. C'est la vérité et c'est l'actualité et ça va vous prendre à la gorge.
En guerre, c'est aujourd'hui au cinéma, il est dès 21h ou bien le dimanche 17 juin également à 21h. Solo, Martine, c'est pour la suite.
Une histoire de Star Wars réalisée par Ron Howard avec Alden Ehrenreich, Woody Harrelson et Emilia Clarke. Alors vous embarquez à bord du Faucon Millennium et vous partez à l'aventure en compagnie du plus célèbre vaurien de la galaxie. Au cours de périlleuses aventures dans les bas-fonds d'un monde criminel, Han Solo fait la connaissance de son futur copilote Chewbacca et croise la route de l'escroc Lando Calrissian. Lors de ce voyage initiatique va se forger la personnalité du grand héros de la saga Star Wars, déjà aux côtés des minorités opprimées, entre un régime totalitaire et des organisations criminelles. Alors en jetant un coup d'œil à la presse, je lis que Alden Ehrenreich tente d'être convaincant dans le rôle mythique qu'Harrison Ford avait immortalisé. Je me demande comment est-ce possible, j'ai des doutes, où est l'humour et l'ironie de Han Solo. Je lis également que c'est un western galactique divertissant, entre parenthèses, la chronologie n'est tout de même pas très respectée. Je lis que la magie de la saga se retrouve tout de même dans quelques scènes, mais que le manque d'enjeux véritablement dramatiques atténue l'intérêt du scénario. Alors les premiers spectateurs sont plus enthousiastes. Ils parlent d'une très bonne surprise grâce aux multiples clins d'œil aux autres épisodes et au casting excellent et surtout aux mimiques façon Harrison Ford du jeune Han Solo, encore inexpérimenté mais hyper débrouillard dans ses multiples aventures. Et c'est ce qui rend le film intéressant, étant centré sur le personnage et non sur la survie de la galaxie. C'est un peu comme dans Rogue One, vous savez, où là on ne parlait que de justement de sauver la galaxie. Là, c'est le personnage qui est intéressant. En plus, il y a une super scène finale que je ne vais pas vous dévoiler, bien entendu, et qui laisse espérer une suite à la hauteur. Alors, en résumé, vous allez passer un très bon moment dans le souvenir des Star Wars d'origine.
Solo, c'est le jeudi 14 juin à 21h au cinéma. Il est Trait de vie, Martin, également au cinéma. Il est...
Oui, c'est un documentaire et je pense que vous allez l'adorer. C'est un film qui rend heureux. C'est réalisé par Sophie Arlot et Fabien Rabin. C'est l'histoire de Manu, Lucie, Philippe, Amandine et Martial qui semblent des paysans et des paysannes un peu hors du temps, des fous, des doux rêveurs. Et pourtant, c'est dans la recherche d'un bien-être que ces débardeurs, maraîchers ou même céréaliers travaillent avec des animaux de trait. Leurs histoires croisées montrent que la pratique de la traction animale s'organise et se réinvente dans un pays où l'agriculture est des plus mécanisées. C'est toute une philosophie qui se veut bienveillante envers la nature, envers soi, qui prend le temps de faire les choses, de faire de la qualité, qui respecte la terre, qui apporte de la fierté et du bonheur. Et c'est fait au rythme retrouvé de l'homme et de l'animal. Les réalisateurs ont rencontré des dizaines de paysans qui ont fait ce choix pour être en phase avec leurs convictions écologiques, pour s'épanouir au contact de l'animal, pour gagner en autonomie, disent-ils. L'arrivée du tracteur avait été, c'est vrai, un soulagement dans la vie des anciens paysans qui subissaient ce mode de travail de la terre. Mais ceux qui choisissent aujourd'hui la traction animale choisissent de se reconnecter avec la nature et replacent l'animal dans une relation de confiance et de respect, tout en sachant lui éviter les tâches trop pénibles quand il le faut grâce au moteur. Alors, le film se veut une réponse pour lutter contre la désertification des campagnes et permettre une économie locale solidaire. Ces défricheurs, ces doux rêveurs, comme je vous le disais au début, réinventent des méthodes oubliées et démontrent la pertinence de leur travail en créant leur paysage, le lien social, le lien avec l'animal et une économie durable. Ces modèles de vie, hors de nos normes actuelles, font pourtant revivre les campagnes. Alors venez découvrir ce beau film optimiste et en discuter avec Georges Biraud du collectif agricole.
Trait de vie, c'est le vendredi 15 juin dès 21h au cinéma. Ça n'a rien à voir, c'est Léo et les extraterrestres, Martine.
C'est une animation qui raconte l'histoire de Léo. Il a 12 ans, il est assez solitaire, son père ne s'occupe pas beaucoup de lui. Et lorsque 3 extraterrestres débarquent près de chez lui, il va se retrouver embarqué dans des folles aventures et sa vie va changer. Alors ça, c'est un film à voir. Les enfants, les parents, les grands-parents, parce que ce n'est pas une grosse machine américaine. C'est drôle, c'est loufoque, c'est joyeux. C'est plein de péripéties, les extraterrestres sont bien drôles et ils vont transformer la vie du petit garçon jusqu'à une fin surprenante que je ne vous raconte pas d'ailleurs. Donc il faut y aller.
Courez au cinéma et allez voir Léo et les extraterrestres le samedi 16 juin dès 16h. Ça n'a rien à voir, c'est Deadpool, le deuxième volet, Martine, à voir.
Voilà, sans plus attendre. C'est le chouchou de la semaine de Roland.
Exactement.
C'est un film de super-héros américain réalisé par David Leitch. C'est la suite de Deadpool de Tim Miller, ce qui était sorti en 2016. C'est avec Ryan Reynolds, Josh Brolin et Morena Baccarin. Alors, le mercenaire de Marvel a remis son casque. Il affronte un super soldat dressé pour tuer, tout en se posant des questions sur la place de l'amitié, de la famille et le sens de l'héroïsme. Alors, c'est un vaste programme, évidemment. Si vous avez aimé l'autre Deadpool, les premiers spectateurs vous promettent que vous jubilerez devant cette suite.
Je suis d'accord.
N'est-ce pas,
hein? Tout à fait.
Voilà, Roland, il a jubilé. Ryan Reynolds s'amuse comme un fou dans son costume moulant de super-héros décalé, vulgaire et insolent.
Malsain de temps en temps.
Malsain de temps en temps. Et les spectateurs aussi s'amusent beaucoup. À lire les critiques, il paraît que le monde des super-héros est présenté avec ironie et malice, et ça va vous faire hurler de rire, tout en assurant les effusions de sang attendues, les grosses vannes et un machisme bien balourd attendu lui aussi. Alors pour ceux qui aiment, tout y est. Ce serait, je cite, un pur moment jubilatoire.
Et de divertissement, Deadpool, le deuxième volet, c'est samedi 16 juin dès 18h. Mon quête, Martine, c'est pour la suite.
Alors, autre moment jubilatoire, c'est un film franco-belge réalisé par François Damiens, dont c'est le premier long métrage, et il présente la particularité d'être tourné en caméra cachée. Donc c'est une curiosité, c'est avec François Damiens, bien sûr, et Matteo Salamone. C'est Danny Versavelle qui a un souci avec son fils. Il a 15 ans, Sullivan ne veut plus d'un père qui fait le king derrière les barreaux. Alors pour Danny, son enfant, c'est sa vie, il est hors de question de le laisser filer. Il décide de s'évader de prison prématurément et c'est entre cavale, magouille et petite réussite, petit bonheur, parce qu'il a beaucoup de choses à lui enseigner. Ça va être un apprentissage, mais un apprentissage à son image et un apprentissage au pied de biche, sans retenue, sans pudeur. Mais là où on pouvait craindre le pire, eh ben se cache peut-être le meilleur. Alors c'est surprenant, c'est libre, c'est original. Je lis qu'on est constamment ballotté entre un rire énorme et des épouvantables moments de gêne. Tout le talent de François Damiens est concentré là, atypique, irrésistiblement cocasse et absurde. En plus, il y a de la tendresse dans ce film de bric et de broc, drôlissime et irrévérencieux. Alors, j'ai pas besoin d'en rajouter, je crois. Évidemment,
tout le monde va aller voir,
vous foncez.
Le samedi 16 juin dès 21h, ou bien le lundi 18 juin également à 21h. L'homme dauphin, Martine, on va plonger cette fois-ci.
Voilà, c'est sur les traces de Jacques Mayol. C'est un documentaire qui tient un peu de la biographie et c'est réalisé par le grec Lefteris Karitos et c'est avec Jean-Marc Barre. Alors, en 1988, était sorti Le Grand Bleu, rappelez-vous, un film qui s'inspirait de l'histoire de Jacques Mayol, ce plongeur en apnée, jusque-là quasiment inconnu, qui était devenu soudain une star internationale. Alors, son histoire a influencé toute une génération de jeunes gens dans leur manière d'appréhender la mer. Ce film est un voyage sur les traces de cet amoureux de la mer pour découvrir ce que fut sa vie, quel héritage il a laissé derrière lui, cet homme qui fut le premier à descendre à 100 mètres de profondeur en plongée libre. Alors le cinéma l'avait transformé en héros, le documentaire présente un portrait de cet homme aux capacités physiques étonnantes et ça veut nous montrer la complexité du personnage dont le lien avec la nature et les grandes profondeurs ressemblait à une quête spirituelle dont la vie sans attache faite de voyages entre terre et mer peut se raconter comme un véritable roman. Alors si on a tous ou presque tous vu Le Grand Bleu de Luc Besson, qui a marqué et séduit, je vous l'ai dit, toute une génération, l'intérêt du documentaire tient à la découverte de la réalité de sa vie entre Shanghai et son enfance, à Marseille, la Suède, les Bahamas, le Japon et finalement l'île d'Elbe où il a terminé sa vie, il a fini par s'installer. Eh bien, on apprend que finalement, il n'avait pas le goût de la compétition, comme le montre le film Le Grand Bleu, pas du tout. Il ne recherchait que l'harmonie et la paix dans la beauté des fonds sous-marins. C'était une passion dévorante, mais comme toute passion dévorante, ça vous fait oublier le reste. Et donc, il avait une face un peu plus noire qui lui a fait abandonner sa famille et ses enfants et alterner des phases de dépression. Ça le rend pas si sympathique que ça au fur et à mesure de l'avancement du film. Le film est à voir, bien sûr, mais on est déçu de voir que l'homme n'était pas à la hauteur du personnage que nous avait fait connaître Luc Besson.
L'homme dauphin, c'est le dimanche 17 juin dès 18h. Le dernier film de cette semaine, c'est L'homme qui a tué Don Quichotte en version originale, sous-titrée Martine.
Voilà, un film un peu bizarre, compliqué, de l'aventure et du fantastique pour le nouveau film de Terry Gilliam. Ça lui a pris 25 ans de sa vie, après Brasil, rappelez-vous, et Monty Python, Sacré Graal. Et c'est avec Jonathan Pryce, Adam Driver et Olga Kurylenko. C'est l'histoire de Toby, un jeune réalisateur de pub assez cynique, désabusé, qui se retrouve pris au piège des folles illusions d'un vieux cordonnier espagnol convaincu d'être Don Quichotte. Embarqué dans une aventure de plus en plus surréaliste, Toby se retrouve confronté aux conséquences tragiques d'un film qu'il a réalisé au temps de sa jeunesse idéaliste. Ce film d'étudiant, adapté de Cervantes, avait changé pour toujours les rêves et les espoirs de tout un petit village espagnol. Alors Toby saura-t-il se racheter et retrouver un peu d'humanité? Don Quichotte va-t-il survivre à sa folie ou l'amour triomphera-t-il de tout? Alors on attendait avec impatience ce film parce que pour les amoureux de Terry Gilliam, évidemment, c'est un film important qui met en abîme un film dans le film avec d'excellents acteurs et des moyens énormes pour des effets spéciaux et des paysages grandioses. Alors, je lis que le scénario est complètement fou et décousu, que la folie du personnage de Don Quichotte pendant 2h13 finit peut-être un peu par lasser, mais ce regard sur la vie et la carrière de l'auteur et par l'auteur en forme d'autoportrait, endossant à la fois les personnages de Toby et de Don Quichotte, eh bien, c'est l'histoire d'un film. Un film sur le cinéma, sur ses films et sur ce qui est transmis aux générations suivantes, comme la question posée dans Don Quichotte sur ce qui reste de la chevalerie et de ses idéaux. La question et l'histoire est universelle et avec l'imagination et les rêves que Terry Gilliam met dans ses films, on comprend combien il est proche du héros dans son obstination. C'est fou, c'est compliqué, je vous l'ai dit, c'est bizarre. Ça se situe entre chef-d'œuvre et désastre, certains le disent, mais l'énergie et l'amour fou du cinéma est là. Alors, franchement, quand on aime le cinéma, on y va.
L'homme qui tua Don Quichotte en version originale sous-titrée, ce mardi 19 juin, dès 21h au cinéma. Martine, on se retrouve en grande forme dès la semaine prochaine.
Mais bien sûr.